Alors, le moment de parler, c'est toujours un moment très difficile, en tout cas pour moi. On ne peut pas avoir l'habitude de parler, surtout quand on parle de Dieu. Parler couramment comme ça, oui, mais parler de Dieu, c'est quelque chose toujours qu'il faut faire avec sagesse, humilité, parce que quand Dieu veut parler à travers la bouche d'un homme, quel qu'il soit, ben, il faut qu'il trouve vraiment un instrument entre ses mains. Et quand l'instrument est docile et se laisse conduire par Dieu et par son esprit, à ce moment-là, oui, le message peut passer. Ce que je voudrais partager ce matin avec vous, c'est un passage qu'on trouve dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre des Nombres. Alors, le livre des Nombres, c'est un passage qu'on trouve dans le chapitre 27. Vous avez ici, mais je vais le lire quand même, parce que vous pouvez le lire bien sûr, hein, en même temps. À partir du verset 12, voilà qu'est-ce qu'il est dit. « L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron, ton frère, a été recueilli parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sim, lors de la contestation de l'Assemblée et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de la contestation à Kadès dans le désert de Sin. » Moïse parla à l'Éternel et dit « Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'Assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. » Ces quelques versets peuvent être surprenants. Surprenants dans le fait que l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne. Pour comprendre le sens de cet ordre de Dieu vis-à-vis de son serviteur, il faudrait revenir à un chapitre précédent, au chapitre 20, à partir du verset 7. L'Éternel lui avait ordonné de parler au rocher sous les yeux du peuple. Et il donnera ses eaux pour la communauté et ainsi que pour le bétail. Mais Moïse, en colère contre ce peuple, leva la main et frappa le rocher deux fois avec son bâton et l'eau sortit avec abondance. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux du peuple, vous ne rentrerez pas dans le pays promis. » Dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, à partir du verset 5-6, il est dit que l'Éternel se tenait sur le rocher. Et le fait d'avoir frappé le rocher deux fois nous ramène systématiquement à la croix, là où le Seigneur Jésus a été frappé pour nos péchés. La désobéissance nous entraînera toujours loin de Dieu. Et pour Moïse, il a pu goûter par la vue la terre promise, mais ne pas y poser ses pieds, à cause de la rébellion et de ses paroles. Dans Nombre 20, qu'on n'a pas lu, mais vous pourrez le lire à la maison, hein, au chapitre 20, verset 10, Moïse leur dit au peuple, « Écoutez donc, rebelles, est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main, il frappa deux fois le rocher avec sa verge, et il sortit de l'eau avec abondance. Vous voyez, dans ces paroles, on sent que Moïse, dans la colère qui était la sienne, qui pouvait paraître justifiée devant un peuple qui murmure sans arrêt, frappe le rocher comme si c'était lui qui décidait. Et c'est ça que va reprocher l'Éternel. Mais on va s'apercevoir que Dieu est rempli de compassion pour son peuple. Malgré la désobéissance, malgré la manifestation de cette colère à travers la frappe de rocher avec son bâton, Dieu va permettre qu'il y ait l'eau qui coule. Sa justice s'accomplit. C'est ça qu'il faut comprendre. Sa justice s'accomplit et s'accomplira toujours. Voilà pourquoi Moïse doit monter sur la montagne. Pouvoir s'en posséder. Et Moïse, pour lui, ce n'est pas une surprise que l'Éternel lui dise « monte sur la montagne ». Parce qu'il sait que son frère Aaron, peu de temps auparavant, est monté sur une montagne aussi. Et il est mort. Et il sait que Moïse, c'est son tour. Aaron était sur la montagne Hor. L'évangéliste Jean nous rappelle une chose qui est importante. Il dit, dans Jean 1, verset 17, « Car la loi a été donnée à Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Moïse, en tant que représentant de la loi, ne pouvait pas conduire le peuple dans la terre promise, ce qui était impossible à la loi, parce que la chair ne peut pas hériter et elle est rendue sans force. Mais Dieu l'a accompli en envoyant son fils, son propre fils, dans une chair semblable à celle du péché. C'est ce que Paul nous dira dans la lettre aux Romains, verset, chapitre 8, verset 3. Pour Moïse, ne faisons pas l'erreur de prendre cet arrêt brutal de sa vie comme une condamnation définitive. On pourrait, à la vue de ce qu'on a lu, on pourrait dire, mais là, Dieu, il sait, on pourrait comprendre, on pourrait, mettez-vous à sa place. Le murmure du peuple est permanent. C'est un homme qui est rempli plein de patience. Comme quoi la patience, à un moment donné, peut être, ne plus être. C'est ce qui s'est produit avec Moïse. Mais nous verrons par la suite que Moïse ne s'est pas arrêté ce jour-là à sa mort. On peut dire que le plan de Dieu est fait de jalonnement pour amener les hommes toujours un peu plus loin. Et Moïse a été un instrument de bénédiction pour ce peuple. Rappelez-vous la délivrance de l'esclavage en Égypte, les fameuses 10 plaies que Dieu a permis à travers Moïse pour arriver à ce que ce peuple sorte. Non, Moïse a été l'instrument parfait entre les mains de Dieu. Revenons un peu à ce que nous avons lu. L'Éternel qui dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne au peuple d'Israël. Moïse, déjà à cet âge-là, était d'un âge très avancé. On a ici des personnes qui ont 97 ans, mais Moïse était encore plus vieux que ça. Et il est dit que son regard perçant a pu jeter un regard sur toute cette plaine que l'Éternel lui montrait. Pourtant, quand vous lisez la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Et qui, sans avoir obtenu les choses promises, ils les ont saluées et vues de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et on peut dire que Moïse était dans cette situation-là. Nous avons, nous, le privilège de connaître la grâce de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus va dire à ceux qui l'écoutaient. Dans Matthieu 13, il dit, Jésus, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous, vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Pour revenir à Moïse, on pourrait se demander qu'est-ce qu'il voit. Ce qu'il voit, c'est un pays de bénédiction, où coule le lait et le miel. Les promesses de Dieu, tout à l'heure, en début de culte, on parlait du plan de Dieu, qui est parfait, mais les promesses de Dieu sont parfaites aussi, s'accomplissent. Elles se réalisent en temps et en heure. Pour nous aujourd'hui, le pays de la bénédiction, cela sera lorsque nous serons ensemble dans sa présence pour l'éternité. Est-ce que nous voulons déjà goûter et nous approprier déjà sur cette terre les prémices de cette éternité où l'adoration et la louange sera notre partage? La deuxième chose que l'on voit depuis le mont Abarim, qui signifie « ceux qui sont au-delà », c'est le changement de contrée. Jusque-là, la vie a été vécue dans le désert, alors que la terre promise, elle est verdoyante, le symbolisme est grand. Cela parle de notre état de pécheur, le désert de nos vies, et la fraîcheur de Dieu lorsque nous nous convertissons. En tout cas, pour moi personnellement, et je m'en souviens comme si c'était hier, pourtant il y a 36 ans en arrière, vous savez, quand les années passent, les mois passent, on a tendance des fois à oublier certaines choses, mais ça, on ne l'oublie pas. La rencontre avec Dieu, on ne peut pas l'oublier. C'est quelque chose qui vous marque jusqu'au dernier souffle. Mais je me rappellerai toujours, je disais, mais j'ai comme quelque chose, un mur, mais un mur un peu comme les vitres. C'était opaque, on ne voyait pas ce qui se passait dehors. Et un seul coup, ce mur est tombé complètement. Et j'ai découvert que de l'autre côté, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Et ça, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, parce que j'étais émerveillé de découvrir qu'avec Dieu, on change complètement de vie. On change complètement de tout, de culture, de vision. On change complètement. Le psaume 23, qui est connu, il y en a qui pourraient le dire de par cœur comme ça, hein, il prend toute sa valeur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avez-vous manqué de quelque chose? Je n'entends rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Non. Les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées à leur terme. Même pour Moïse, au moment où sa fin sur la terre des hommes arrive, l'Éternel l'a amené sur une haute montagne. Le mont Nebo. Je ne sais pas si quelqu'un était en Israël. Avec mon épouse, on a eu l'occasion d'aller en Israël. Ça remonte aussi il y a longtemps. Le mont Nebo, c'est quelque chose qui domine. Et à toute la plaine d'Israël, qui est devant. Et là, il a pu voir des choses merveilleuses. C'est pas décrit, c'est vrai. Vous allez me dire, oui, mais il dit pas. Il était émerveillé de voir ce qu'il voyait. Il dit qu'une chose qui est importante, c'est que même dans la mort de Moïse, c'est Dieu qui l'enterre. Pas beau, ça? C'est Dieu qui prend soin de son serviteur et qui l'enterre. Préservation. Personne n'a su où était enterré Moïse. Même le diable n'a pas su. Pour montrer que quand Dieu fait quelque chose, personne, aucun être sur la terre et dans le ciel, ne pourra contrer ce que Dieu fait. Le mont Nebo, la signification est importante. Ça signifie appeler, annoncer. Dans ce lieu du mont Nebo, il y a tout un message. Le Seigneur nous rappelle que l'ouverture de la maison est pour nous aujourd'hui, à travers le chemin nouveau qu'il a ouvert par sa propre vie. Moïse, malgré le dessein arrêté de l'Éternel à son égard, il va tenir un langage de serviteur. Et ça, c'est important à relever. Très important à relever. Parce que pour nous, aujourd'hui, on a besoin de savoir quel va être mon langage par rapport à une situation donnée. N'oublions pas que Moïse, il sait qu'il va mourir. Il le sait. Il va dire, verset 15-17, il va dire à l'Éternel que l'Éternel, le Dieu des esprits et de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. De ces quelques paroles ressortent deux éléments montrant l'état de cœur de Moïse pour ce peuple. Premièrement, on peut dire que de la part de Moïse, il y a une entière soumission à la volonté de Dieu. Et ça, c'est important. Si notre vie n'est pas soumise à Dieu, et quand je dis soumise à Dieu, ce n'est pas que le dimanche matin, c'est tous les jours, c'est chaque minute, c'est même chaque seconde. Est-ce que je suis soumis à Dieu à ce point-là? Je vous pose la question, mais je me la pose aussi, hein. Croyez-moi. Est-ce que je suis soumis à la volonté de Dieu à chaque instant de ma vie? Chaque fois que j'aspire de l'air, est-ce que l'air que je prends va permettre que je puisse servir Dieu? Aucun murmure ne sort de la bouche de Moïse. Aucun murmure. Pourtant, il avait affaire à un peuple qui n'a pas arrêté de murmurer. Lui, il aurait pu murmurer en disant, mais Seigneur, tu vois comment je t'ai servi. Tu vois combien de fois j'étais d'un calme parfait avec ce peuple qui n'a pas arrêté de murmurer contre toi. Et pour une fois que je fais quelque chose, Seigneur, tu me fais disparaître. Rien de cela. Il reconnaît la souveraineté de Dieu et que lui, en tant que serviteur de Dieu, n'a été qu'un instrument dans les mains de son Dieu. Et que maintenant, un autre doit assurer la suite, la charge, afin d'amener à bon terme ce peuple qui aspire à trouver la terre promise. Et je crois que c'est souvent ce qu'on a besoin dans l'Église, savoir à un moment, dire « Seigneur, moi j'arrive au terme, mais qu'il y en ait un autre qui puisse assurer la charge. » Et vous savez, quand c'est comme ça que ça se passe, mais l'Église va toujours de l'avant. Oui. Si vous lisez la suite, vous allez voir que le peuple a été amené dans la terre promise. La deuxième chose qui est importante qu'on trouve dans ces paroles de Moïse, c'est sa requête. Ou si vous préférez, sa prière. Moi, j'aime bien dire plutôt prière que requête. Parce que requête, c'est demander quelque chose. Alors que lui, non. Il prie. Que l'Éternel établisse un berger. Il montre son désir de partir. La mort ne le fait pas peur. D'ailleurs, la mort, qu'est-ce que c'est? Ça vous fait peur, la mort? Vous savez que la mort, c'est un endormissement pour le croyant. La mort, la peur de la mort, c'est pour ceux qui sont dehors. Si vous avez peur de la mort, il va falloir venir me voir. Parce que vous avez un problème. Ah oui. Si vous avez peur de la mort, c'est que vous n'avez pas compris. Et là, je vous conseille de venir me voir. Moi ou un des anciens qui sont là, hein, et poser la question. Un chrétien s'endort. Et si vous voulez avoir une confirmation, allez dans la parole. Vous avez le cas d'Étienne, acte 7, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il est dit que, alors qu'il était lapidé, il s'endormit. Bon, ça, c'était en plus. Hein. Oui. Mais c'est important, peut-être que je le dise. Parce que vous savez, des fois, il y a des thèmes, des sujets qu'on n'aborde jamais dans l'Église. On l'aborde des fois dans les études, mais dans l'Église même, on ne l'aborde pas. Et il dit aussi qu'il y ait un berger qui soit devant eux. Aussi bien en sortant qu'en entrant dans tout lieu que leur pied foulera le sol. C'est le Seigneur Jésus qui va mentionner dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, et au verset 1-6 et au verset 4, il va dire « Lorsque le berger a fait sortir toutes les brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Et vous, si vous lisez la suite de ce passage, de l'évangile de Jean, chapitre 10, vous allez voir qu'ils connaissent la voix du berger, mais le berger connaît aussi la voix de ses brebis. Moïse n'a pu que contempler, sans toutefois posséder cette terre. Mais sa part à lui dans les cieux, personne, je dis bien personne, ne lui a enlevé. Alors, un conseil que je me donne, mais en même temps que je vous donne. Soyons nous aussi dans les mêmes dispositions du cœur que Moïse. Ayons nos regards, ou pas le regard de la vue, mais le regard du cœur, fixés sur Jésus. Si nos regards du cœur sont fixés sur Jésus, croyez-moi, tout ce qui peut vous arriver, je dis bien tout ce qui peut vous arriver, Dieu, dans la personne de Jésus, l'a vaincu à la croix. Il faut que notre regard se porte sur les choses célestes, parce qu'elles sont parfaites, les choses célestes. Et afin aussi d'être participant à cette gloire. Car toutes les promesses à notre égard de la part de Dieu sont oui et amen. Amen, ça veut dire en vérité. En vérité. Jésus a exprimé ça combien de fois ? En vérité, je te le dis. En vérité, je le suis. En vérité, vous êtes mon peuple. Oui, c'est triste. Le service de Moïse a cessé là. On pourrait dire c'est triste. Mais c'est là que va commencer son ministère céleste. Et je crois que c'est ça qui est important de comprendre, c'est que nous sommes appelés nous aussi. Et vous savez que un jour, sur le mont de la Transfiguration, Jésus étant monté avec quelques disciples, dont Pierre, il va se faire une rencontre merveilleuse. D'un côté un homme de Jésus, de l'autre côté un autre. D'un côté Moïse, et d'autre côté, Élie, l'homme de la loi et l'homme de l'esprit. Ah, tiens, un est parti sur un chariot, vivant, hein, Élie, l'autre est mort et c'est Dieu qui l'a enterré, et personne ne sait où il est, et les deux sont là avec Jésus. Retenons ceci. Dieu ne se limitera jamais à notre intelligence. Bien qu'il nous demande à ce que notre intelligence soit renouvelée, mais pas renouvelée dans une manière physique et terrestre, renouvelée dans l'esprit. Si vous voulez comprendre ce message où là, Jésus se retrouve avec deux hommes qui ont été deux serviteurs de Dieu, qui ont manifesté des choses qui peuvent nous dépasser, c'est parce qu'il va leur parler exactement du pourquoi il les a appelés. Et pourquoi il les a appelés, c'est pour leur montrer qu'à travers ce qu'eux ils ont fait, manifestation de puissance, la plus grande manifestation qui va se faire, c'est lui qui va la faire. La croix. La croix, j'aime bien le dire ça aussi, elle est debout. Personne ne la fera mettre à terre. La croix est debout. Elle est debout pour chacune de nos vies, mais elle est debout aussi pour ceux qui sont dehors. Parce qu'il faut qu'elle manifeste encore aujourd'hui que la grâce, le don parfait de Dieu, est pour nous aujourd'hui. Dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 3 à 14, on retrouve deux témoins. C'est étonnant ça quand même, vous ne trouvez pas ? Qu'on retrouve comme ça encore, deux témoins. Et dans les explications qui sont données, on ne mentionne jamais leur nom. Mais lisez le passage, vous allez voir. Et demandez au Seigneur qu'il vous éclaire. Et il le fera. Vous avez... Alors, je vais dire, Georges, là, c'est toi qui dis ça, hein ? Oui, c'est moi qui le dis. Mais dans les deux personnages, vous avez encore Moïse et Élie. Moi, j'aime dire que Dieu est souverain. On le chante, on le croit, le vit-on, ça c'est autre chose, mais Dieu est souverain. Et il ne se limitera jamais à ce que nous pouvons être nous-mêmes. Dieu, ce qu'il veut, ça c'est fini, Dieu, ce qu'il veut, c'est que notre marche soit faite selon le plan parfait qu'il a manifesté à la croix. Venez à la croix, il dit. Déchargez-vous de vos soucis, déchargez-vous de vos problèmes. Et revêtez-vous de la croix. Est-ce que vous avez la croix avec vous ? Dieu, dans son amour, il veut un peuple qui soit uni, qui soit uni dans l'esprit, qui soit uni afin que chacun puisse trouver sa place. C'est Pierre qui dira que nous sommes comme une muraille. Dans cette muraille, il y a des espaces. Et chaque pierre, et je regarde Pierre là, mais ce n'est pas cette pierre-là, chaque pierre a sa place. Alors, vous allez me dire, oh, mais moi, je suis peut-être un petit galet, une petite pierre. Mais même toi, petite pierre, tu as ta place. Et quand le mur est vraiment... reflète ce que Dieu attend, alors il y a l'harmonie, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce que Dieu nous donne. Et le fruit de l'esprit, que Galates nous précise, c'est Paul, on retrouve ça dans ce mur. Parce que chacun va exprimer à travers ses dons la manifestation puissante de Dieu. Amen. Voilà, on va terminer par la prière. Merci Seigneur pour cette situation particulière de Moïse sur ce mont Nebo, Seigneur, où tu as repris ton serviteur. Mais Seigneur, tu nous montres aussi que ce n'était pas une fin en soi, mais qu'au contraire, c'était le début à quelque chose de plus grand, plus merveilleux. Et Seigneur, ce que nous voulons en tant que corps de l'Église, dont tu es la tête, Seigneur, c'est pouvoir déjà marcher à nouveauté de vie ensemble, d'avoir ce regard perçant aussi vers cet avenir que tu nous promets, Seigneur, parce que tu nous as ouvert une route nouvelle, Seigneur, et nous voulons tous marcher d'un même pas et remplis d'un même amour, Seigneur. Alors glorifie-toi à travers chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Merci pour ce temps de culte. Merci pour ceux qui ont participé. C'est vrai que ce soit que nos temps de culte et que nos vies soient vraiment à la gloire de Dieu. Je vous laisse découvrir le programme de la semaine à l'écran. Mardi, réunion de prière. Ben voilà, c'est la suite un petit peu du message. Que ce soit aussi un temps à la gloire de Dieu et un temps utile pour l'Église, pour les autres, mais pour nous aussi. Dimanche prochain, tes cafés, la suite, c'est juste Pierre, la suite des messages sur Corinthiens. On arrive à Corinthiens 12, 13, peut-être même 14, vous pouvez même lire toute la fin des 1 Corinthiens. En tout cas, 1 Corinthiens 12, 13, sûr. Quelques repères pour la suite. Ce sera vite là, samedi 8 avril. Pendant le week-end du samedi dimanche 8 et 9 avril, il y a une équipe de Jeunesse en Mission, Lyon, qui va être parmi nous. Alors samedi, on aura du théâtre de rue au lac de Divonne. Alors voilà, c'est important d'y penser, de le réserver dans l'agenda, évidemment. Samedi après-midi, de 15h à 17h. Mais c'est important aussi de prier pour cela. Le but n'est pas de se produire pour être mieux que d'autres. Le but est de communiquer ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut prier aussi. Et puis l'équipe de James sera aussi présente pour le culte dimanche, qui sera donc un culte découverte, un culte ouvert, un culte club. On va penser au mariage d'Anne-Lise. Ça s'approche le samedi 15 avril, donc le mariage civil. Et c'est... C'est la semaine prochaine, le mariage civil, et le samedi 15 avril, la cérémonie. Ouais. Ensuite, le culte en commun, donc ce sera plus qu'un culte en commun cette année. C'est carrément un week-end en commun, puisqu'il y aura déjà un concert de chant le samedi soir, le culte le dimanche matin, et puis un temps de louange le dimanche après-midi. Continuons de penser aussi à ceux qui souffrent dans leur santé. On veut continuer de penser à Déborah, qui apprend la patience encore quelques semaines. On a eu des nouvelles d'Anne-Lise. Anne-Lise nous a communiqué des nouvelles encourageantes de son pied. Un jeune médecin a mis en place un nouveau type de traitement, un traitement tout à fait particulier où le pied était enveloppé dans une sorte de mousse avec beaucoup de médicaments et puis un drainage, etc. Et 3 jours après, son pied est devenu presque comme l'autre, au dire d'Anne-Lise. Donc elle est très encouragée. 2 jours après, il y a eu déjà une première greffe de peau. Et donc, les greffes vont se poursuivre. Donc, continuons de prier aussi pour cela. Mais surtout, Anne-Lise ne souffre plus. Et ça, c'est une sérieuse réponse à nos prières. Anne-Lise ne souffre plus. C'est vraiment, elle est dans la joie et la reconnaissance. Et elle remercie pour les prières. Et moi, j'ai envie de dire, continuons de prier pour elle parce que c'est pas fini. Alors, actuellement, elle est toujours à l'hôpital cantonal. Et mercredi, elle va déménager à Beauséjour, donc pour environ 2 semaines. Et puis, bien sûr, c'est environ parce que ça va dépendre de comment se passe la suite. Ouais, donc il y a les flyers du club d'été qui ont été mis dans le meuble, mais qu'on peut ressortir. Pensons à les communiquer, à les distribuer. Une autre information, on a eu concernant l'artisanat du sel, qui fait une promotion de printemps. Ben voilà, il faut une promotion de printemps. Alors, il y a des petits cahiers qui sont dans les présentoirs des documents. J'ai oublié celui que j'avais pris. C'est presque le format A4. C'est de couleur vert. Alors, prenez-en. Il y en a plusieurs. Et puis, Lydie va faire une commande. Donc, si vous voulez acheter des articles, même si vous en voulez un ou deux, pas de souci. Il y aura une commande groupée. Donc, c'est important d'en profiter aussi. Ça permet de limiter les frais de port. Donc, adressez-vous à Lydie. Si je n'ai rien oublié, oui, Nancy. Oui, juste le vendredi de Pâques. Alors, le vendredi de Pâques, il y a quelque chose qui est prévu. Une rencontre avec un partage, un repas ensemble et aussi des lectures de versets bibliques, partage de la scène, et il y aura aussi des activités pour les enfants. C'est important aussi de le réserver dans nos agendas. Il y aura la semaine prochaine une liste pour s'inscrire, parce que voilà, si on prévoit un repas, il faut quand même savoir un minimum combien il y aura de personnes. Et donc voilà. À quelle heure c'est prévu? 18h, hein? 18h, oui. Oui, juste. Sinon, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Hébreux. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.